Vous êtes bien sur Esprit Occitanie, la radio à la carte. L'oiseau blanc, Philippe Trousselard, bonjour. L'oiseau blanc avec aujourd'hui
le docteur Jean Mouchard.
Bonjour, docteur Mouchard.
Bonjour.
Pour beaucoup de pilotes professionnels de la région Occitanie, et plus loin encore, voire pour des pilotes non professionnels, vous avez été pendant plus de 20 années celui qui, en fin de leur examen médical au centre d'expertise médicale du personnel navigant de Toulouse-Blagnac, le CEMPN-TB, signait ce précieux carton certifiant d'une aptitude médicale pour les mois à venir. Carton sans lequel un pilote ne peut être autorisé à voler et surtout ne peut donc exercer son éventuel métier de pilote. N'oublions pas non plus le personnel navigant commercial, les hôtesses et stewards, tous aussi soucieux de leur aptitude médicale. Avec ténacité, vous avez créé en 1993 ce centre d'expertise médicale à Toulouse. Le premier centre civil de ce type en France, si je ne me trompe pas. L'oiseau blanc voudrait aujourd'hui profiter de votre expérience, mais aussi de votre cordialité si bien connue, afin de découvrir ce contexte de la vérification des aptitudes médicales liées à ce monde de l'aéronautique. Je crois avoir compris qu'au cœur de votre cheminement professionnel se déroule un fil, celui de la passion qui a certainement commencé très tôt à se développer. Voilà bien pourquoi, cher docteur, nous aimerions tout d'abord mieux vous connaître. Aussi, je me permettrai de vous poser cette première et très simple question, question très ouverte. Qui êtes-vous ?
Eh bien, c'est très simple. Je suis né à Tunis en 1941 et je suis en réalité un passionné d'aéronautique. Je l'ai été depuis l'âge de 3 ans, le jour de mon baptême de l'air, où je suis monté pour la première fois dans un Junker Ju-52 que les Allemands avaient abandonné en quittant la Tunisie pour, avec mes parents, émigrer vers l'Algérie. Et ce baptême de l'air dans ce Junker a été pour moi le déclenchement d'une passion qui n'a jamais cessé.
Pardonnez-moi de vous interrompre, mais 3 ans, vous avez encore des souvenirs ?
Parfaitement. Je me souviens très bien comment nous étions assis sur le bord latéral de la carlingue, comme les parachutistes l'étaient à cette époque-là.
Alors, c'est la première fois que nous avons un invité qui fait référence à un événement aussi jeune. Donc, je vous laisse poursuivre.
Et qui m'a marqué aussi profondément, comme vous pouvez le penser. Alors, j'ai eu l'intention d'être pilote professionnel, bien entendu. Malheureusement, les circonstances médicales ont fait que, à cette époque-là, mon état de santé ne me permettait pas de devenir professionnel et j'ai dû changer mon fusil d'épaule et faire une autre carrière. Et j'ai choisi la carrière de médecin et c'est comme ça que je me suis engagé avec passion également dans la médecine pour être diplômé d'otorhinolaryngologie et j'ai exercé pendant plus de 25 ans cette profession à titre libéral ici à Toulouse. Bien entendu, la passion aéronautique ne m'avait pas quitté et dès que j'en ai eu les moyens, j'ai eu la possibilité d'apprendre à piloter aussi bien les avions que les planeurs. Et ensuite, au fur et à mesure de l'évolution de cette passion, j'ai touché au bimoteur, j'ai touché ensuite à l'IFR, c'est-à-dire le vol aux instruments. Et puis, pourquoi pas aussi un petit stage en Italie pour faire de l'hydravion. Et puis, bien sûr, de l'hélicoptère aussi. J'ai été lâché en Robinson R22. Et ça, c'est une fierté que j'ai, bien entendu. Le vol de nuit également. Donc, un petit peu tout. Et je crois que le summum de cette passion, ça a été la construction d'un Rutan Longues, comme on dit, c'est-à-dire un monomoteur Formule Canard, biplace en tandem, construit en mousse et fibre de verre et résine époxy, et qui avait comme caractéristique d'avoir un moteur de 125 chevaux et une vitesse de croisière de 130 nœuds, avec 200 litres d'essence de chaque côté dans les réservoirs d'ailes, ce qui permettait de faire de belles distances, plus de 2000 km d'autonomie. Voilà donc globalement ma passion aéronautique telle qu'elle apparaît. Et cette passion aéronautique, bien entendu, s'est mutée en passion aéromédicale dans la mesure où, effectivement, les amis que j'avais en aéroclub m'ont posé la question « Docteur, pourquoi est-ce que vous ne faites pas passer les visites médicales pour nous ? On est obligé d'aller voir des médecins en ville. » Eh bien, oui, mais il fallait pour ça passer des examens particuliers. Et j'ai eu la chance de rencontrer, dans un stage où je faisais de la radionavigation à Muret, un instructeur qui était lui-même pilote et qui m'a incité à faire comme lui le diplôme de médecine aéronautique à Paris. Et donc ce confrère et ami, instructeur pilote, a été muté à Melun. Et donc il a eu la possibilité de faire ce diplôme à la faculté des Saint-Pères, et il avait la gentillesse de m'envoyer les photocopies ou les duplicata des cours, ce qui fait que nous avons, en fin d'année, potassé ensemble cet examen que nous avons réussi très brillamment, puisqu'il a été le major et j'ai été le deuxième.
Et c'était donc en quelle année ?
C'était dans les années 70 à peu près, dans les années 70. Et alors, c'est à ce moment-là que j'ai pu faire les visites médicales pour les pilotes de l'aéroclub. Et m'est venue ensuite l'idée de faire des visites médicales pour des professionnels, et en particulier pour des professionnels américains. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque dont je parle, c'était à l'époque où Concorde était en pleine expansion, il y avait comme par hasard beaucoup de pilotes américains dans la région. Dieu sait pourquoi. Et ces pilotes américains étaient obligés d'aller passer leur visite de révision à Francfort. Alors j'ai eu l'idée de passer les examens aux États-Unis pour pouvoir faire passer ces visites aux pilotes américains qui n'avaient plus besoin de se déplacer jusqu'à Francfort. Ils avaient le médecin agréé sur place.
Donc vous avez commencé à agréer les pilotes américains avant américains. Les pilotes français.
Américains d'abord, canadiens ensuite, dans la foulée. Et puis c'est par la suite que l'aventure du CMPN a débuté. Si vous voulez, je peux vous la résumer assez brièvement, dans la mesure où c'est, comme souvent, le fruit du hasard qui fait que les choses arrivent. J'étais dans un avion allant à Chicago avec le président du conseil médical de l'aéronautique civile de cette époque, qui était le médecin général Auffray, un grand homme qui était à la fois médecin, pilote de chasse, pilote d'essai, un homme extraordinaire.
Je vous interromps, docteur. Le conseil médical est en fait l'organisme qui chapeaute les centres
exactement.
D'expertise.
C'est voilà. Donc le grand patron de la médecine aéronautique. Et il m'a expliqué pendant le voyage le souci qu'il avait, dans la mesure où pour obtenir un certificat d'aptitude, il fallait passer dans un CEMPN, et qu'il n'y avait que des CEMPN militaires à cette époque-là, et que pour obtenir un rendez-vous, il fallait 3 à 4 mois d'attente. Alors, il avait estimé qu'il serait possible pour lui de créer un CEMPN civil, puisque les militaires ne voulaient pas faire d'autres CEMPN, et il pensait le faire à Paris, mais ça lui coûtait tellement cher qu'il était prêt à renoncer. Et là, candidement, je lui ai dit « Mais moi, je peux vous en faire un à Toulouse, capitale de l'aéronautique, ça sera la ville qui va bien pour ça. » Et il m'a dit « Mais écoutez, Mouchard, faites-moi un rapport. » Et c'est comme ça que cette aventure s'est lancée, dans la mesure où, rentré à Toulouse, j'ai dit à ma femme, je crois que j'ai eu la langue un peu trop longue, et maintenant il va falloir travailler pour ça. Et heureusement, j'ai été épaulé par toutes les autorités toulousaines qui ont vu que effectivement Toulouse méritait bien un CMPN civil, et c'est comme ça que l'aventure a commencé.
Alors, vous venez de parler de votre épouse. Je sais que votre épouse vous a beaucoup accompagné. Nous y reviendrons peut-être au cours de la discussion. L'année 93 est donc celle de l'ouverture du centre d'expertise médicale du personnel navigant. Et ce déclic, en fait, est arrivé à quand ? Combien de temps vous avez mis pour ouvrir le centre en 93 ?
Ça a duré pratiquement 2 ans, dans la mesure où il a fallu résoudre beaucoup de problèmes, qui étaient des problèmes d'ordre d'intendance, si j'ose dire, mais qui se sont réglés relativement facilement grâce aux appuis que la ville de Toulouse, le conseil général, Blagnac, le conseil régional ont pu m'apporter par des aides remboursables, mais fort bienvenues. Mais il y a eu surtout de grosses difficultés sur le plan administratif parisien. Dans la mesure où la DGAC, qui était sollicitée...
Donc la Direction Générale de l'Aviation Civile.
La Direction Générale de l'Aviation Civile, qui était sollicitée, bien entendu, par le médecin général Auffray, qui voulait voir arriver à bon terme son projet, n'était pas tout à fait favorable, voire un privé se lancer dans une telle aventure.
Parce que c'était la première fois qu'un privé...
C'était la première fois, il n'avait peut-être pas de garantie, de succès, il n'avait peut-être pas suffisamment de références pour pouvoir accepter un tel projet. Ça a été très difficile, mais nous y sommes arrivés. Et sur le plan anecdotique, puisque j'aime beaucoup les anecdotes, nous avons reçu notre premier pilote le 7 janvier 93 à 8h du matin, et nous avons eu l'agrément de l'autorisation donc de l'aviation civile le même jour à 10h du matin.
En tout cas, jusqu'à ce moment de l'interview, la passion est au cœur et vous continuez de l'exprimer dans cette ouverture. J'ai déjà une question un peu technique à vous poser. Le CEMPN, donc le Centre d'expertise médicale des personnels navigants, était à l'époque une caractéristique française. Il y a d'autres types de centres en Europe ?
Non. Alors, le CEMPN est une invention française, dans la mesure où c'est un dérivé de centres médicaux. Il n'y avait, au moment où je me suis installé, que des centres médicaux. Il y avait le centre principal qui était parisien, et ensuite il y avait un centre à Bordeaux, un centre à Marseille, un centre à Toulon pour la marine, et il y en avait un autre à Strasbourg. Donc des centres militaires. Et c'était une originalité que de vouloir créer un centre uniquement civil. Alors, manifestement, les militaires n'ont pas vu ça d'un bon œil initialement, mais il faut rendre hommage à leur perspicacité dans la mesure où, manifestement, ils ne pouvaient plus assurer la totalité des fonctions, dans la mesure où l'armée de l'air était en pleine voie de restriction et plusieurs CEMPN se sont fermés, dont celui de Marseille. Et donc, manifestement, ils ont été obligés d'accepter que les civils qui passaient chez eux, aussi bien que les militaires, puissent avoir une ouverture sur un centre entièrement civil.
Alors, nous reviendrons au cours de notre interview sur ces liens avec la partie européenne pour voir un petit peu quelles sont les contraintes peut-être que nous apporte l'Europe dans cette organisation des CEMPN. Mais d'ores et déjà, docteur, premièrement, quelles sont les personnes concernées par des visites dans un centre d'expertise médicale ?
Alors, à l'heure actuelle, tous les navigants peuvent passer dans un centre d'expertise médicale du personnel navigant qui a changé de nom et qui s'appelle maintenant un CEMA, Centre d'expertise de médecine aéronautique. Alors, à l'heure actuelle, il y a plusieurs catégories de pilotes ou de personnel navigant. On peut dire qu'il y a des personnels navigants techniques et des personnels navigants commerciaux. Dans les personnels navigants techniques, qui sont des professionnels, vous avez des pilotes de classe 1, des pilotes de classe 2 qui sont non professionnels, et vous avez maintenant ce qu'on appelle les LAPL, Light Aircraft Pilot License. Ce sont des petits pilotes de petits avions qui n'ont pas les mêmes caractéristiques de restrictions médicales.
Donc on peut dire des pilotes d'aéroclub.
Voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça. Certains avions légers. Alors, à l'heure actuelle, les centres d'expertise font passer toutes les visites, toutes les visites. Les médecins agréés classe 1, c'est-à-dire des médecins agréés qui ont subi une formation particulière avec des examens tout à fait spéciaux, ont un agrément pour faire passer des visites révisionnelles. Les visites d'admission, c'est-à-dire les premières visites, sont effectuées uniquement dans les SEMA. Alors, ces visites révisionnelles, elles se font aussi bien pour les pilotes privés que pour les pilotes professionnels, aussi bien que le personnel commercial. Maintenant, les pilotes de classe 1 peuvent avoir des visites révisionnelles chez médecins agréés en ville. C'est la nouveauté. C'est la nouveauté. Alors, c'est une nouveauté qui est copiée sur le système anglo-saxon. Dans la mesure où ce sont les Anglais qui, il faut bien dire les choses, ont imposé leur manière de voir, et à l'époque où j'ai commencé à être agréé et où j'ai eu l'agrément par les autorités anglaises, donc il y a très longtemps, il n'y avait qu'un seul centre qui permettait de faire toutes les investigations des pilotes. Et ce centre était à Gatwick, et il y avait, pour les visites de renouvellement, des médecins agréés en ville. Et alors, ces médecins agréés dits de classe 1 étaient répartis sur tout le territoire. À l'heure actuelle, l'Europe nous impose le même système, dans la mesure où les centres français subsistent, persistent. Donc, au lieu d'avoir un seul centre, comme chez les Anglais, il y en a 5, qui sont Paris, Paris Air France, Bordeaux, Toulon et Toulouse. Donc, les pilotes, pour leurs admissions, sont obligés d'aller dans un de ces centres. Pour les visites de renouvellement, ils ont le choix maintenant pour aller voir des médecins agréés de classe 1 en ville. Seulement, la France étant ce qu'elle est, les médecins agréés classe 1 en ville, il n'y en a en France que 4.
Que 4 médecins ?
4 médecins agréés classe 1 en France. Donc, ils sont obligés de continuer, pour leur visite révisionnelle, à retourner dans les SEMA.
Alors, d'ores et déjà, puisque nous sommes sur la radio Esprit Occitanie, par exemple, à Toulouse, il y en a des médecins agréés classe 1.
Oui, il n'y en a qu'un seul,
qui
mais
est...
il travaille.
Dites-nous tout.
C'est le docteur Lafaille, mais
d'accord.
Il travaille au SEMA.
D'accord.
Voilà. Donc, le docteur Lafaille, pour être agréé dans le SEMA, en prenant la suite de ma fonction, a été obligé de passer des examens, fort difficiles d'ailleurs, et qui lui ont permis d'avoir cet agrément de classe 1. C'est une particularité, je le félicite, parce que c'est pas quelque chose de facile.
Je me permettrai, docteur, de revenir avec vous sur ces questions de l'Europe, ce que peut nous apporter de manière positive, voire aussi négative, ce que peut nous apporter l'Europe. Pour revenir sur le cadre des personnes qui sont concernées par ces examens, donc vous nous avez parlé des personnels navigants techniques, les PNT, on dit donc la classe 1, on peut dire la première classe, donc
ceux qui
sont au-dessus et qui ont certaines fonctions beaucoup plus professionnelles, la classe 2 et le personnel navigant commercial. Les stewards, les hôtesses sont aussi concernés par des visites médicales.
Absolument, absolument. Mais le règlement maintenant européen a fait que la licence PNC est beaucoup plus légère qu'elle ne l'était, et donc ce sont des visites qui peuvent être réalisées par les médecins agréés classe 2, c'est-à-dire les mêmes que ceux qui font les visites de pilotes privés, parce que, justement, la simplification de leur visite médicale permet à ces médecins d'avoir suffisamment d'autorité pour leur délivrer la licence PNC.
D'accord. Donc, on va se concentrer peut-être sur la partie personnel navigant technique. Alors, pour que nos auditrices, auditeurs comprennent un petit peu, donc on arrive dans un centre, dans un SEMA, donc le centre d'expertise. Et quels sont les médecins spécialistes qu'on voit avant d'obtenir ce carton ?
Eh bien, écoutez, la réglementation exige qu'il y ait une visite de médecine générale, une visite par un ophtalmologiste, une visite par un otorhinolaryngologiste, et ensuite, en fonction de la visite dite d'admission, qui est une visite beaucoup plus sévère, beaucoup plus serrée, ou si c'est une visite dite révisionnelle, qui est déjà un petit peu plus légère, une prise de sang, et d'autres analyses comme une analyse d'urine ou un électrocardiogramme en fonction des circonstances. Voilà. Donc, une fois que les pilotes ont effectué les examens nécessaires, ils passent devant le médecin-chef qui juge de leur aptitude ou non et qui signe le certificat d'aptitude.
Alors, vous venez de donner toute l'importance à ce qu'on nomme la visite d'admission, qui est la première visite, c'est-à-dire quelqu'un qui veut, par exemple, devenir pilote et qui vient au centre d'expertise et qui recourt à cet examen. Et donc, la visite d'admission est beaucoup plus importante et peut mener, d'ailleurs, à des examens complémentaires en fonction du déclaratif de la personne.
Absolument, absolument. Oui, oui. C'est quelquefois amené à faire en ville des examens complémentaires nécessaires, jugés nécessaires ou indispensables en fonction de ce que l'on trouve à l'examen d'admission. Par exemple, une radiographie pulmonaire qui n'était exigée qu'il y a déjà pas mal d'années. Les simplifications interviennent à ce moment-là. Il n'y a plus nécessité de faire de radio pulmonaire. Vous avez d'autres examens, comme des examens cardiologiques un petit peu plus spécialisés. Si on trouve une anomalie, on peut demander des investigations complémentaires.
Alors, on ne va pas rentrer dans le détail médical. Cependant, et docteur, nous avons eu à une certaine époque cette discussion tous les deux, c'est-à-dire qu'il y avait, par exemple, la radio pulmonaire qui était obligatoire. Aujourd'hui, elle ne l'est plus. Alors, je ne parle pas de la visite d'admission, elle n'est plus. Et je me souviens, un jour, vous m'avez dit, mais on découvrait un certain nombre de cancers, de poumons, qu'on ne découvre plus, parce que de toute façon, on n'a plus de radio.
Oui, c'est exact. Oui, oui, vous avez très bonne mémoire. Je vous avais dit que nous avions découvert 10 cancers pulmonaires et que ces 10 cancers du poumon ont été traités et qu'il y a 2 de ces 10 pilotes qui ont retrouvé leur licence parce qu'ils ont été guéris parce que pris de bonne heure. Oui, c'est exact.
Alors, est-ce que c'est l'Europe qui nous a conduit à sortir
oui,
de ce
voilà. C'est une différence de philosophie qui intervient, dans la mesure où les Français ont toujours eu comme but essentiel de faire en sorte que le navigant qui passe ses visites puisse savoir s'il sera capable de terminer sa carrière. Donc, nous faisons des investigations pour essayer de savoir si, effectivement, il aura la possibilité de terminer sa carrière. Et si on trouve une pathologie particulière, de faire en sorte qu'il puisse être traité et guéri et savoir qu'effectivement, il terminera sa carrière. Pour les anglo-saxons, c'est différent dans la mesure où il y a un règlement. On rentre aujourd'hui dans le cadre de ce règlement, on est apte. Si demain matin, on est hors du cadre, on est éliminé et on peut faire autre chose. Il faudra qu'il choisisse une autre carrière que la carrière de navigant. Voilà, c'est la différence essentielle. Alors, ce qui fait que maintenant, l'Europe a choisi la solution anglo-saxonne et en définitive, les examens sont beaucoup plus simplifiés et manifestement, la philosophie n'est plus la même. N'est plus la même.
Et ce que je comprends, c'est qu'aujourd'hui, les examens reposent beaucoup sur le déclaratif de la personne. C'est-à-dire qu'on déclare qu'on est en bonne santé, quelque part.
Vous avez tout à fait raison. C'est le système américain ou le système anglais qui est arrivé là, dans la mesure où, dans ces pays-là, il est absolument interdit de mentir. À partir du moment où on se rend compte que vous avez fait un mensonge, vous êtes éliminé définitivement. En France, on pourrait dire que le mensonge n'est pas puni et qu'en définitive, c'est peut-être même un sport, quelquefois, que d'être menteur. Donc, c'est à nous d'essayer de savoir si le navigant a un problème ou pas et donc peut-être pousser un peu plus loin les investigations qu'on ne l'aurait fait s'il avait déclaré sa pathologie initialement.
Alors, vous venez de parler de mensonges et nous avons eu récemment dans L'Oiseau Blanc une discussion avec Farid Zizi sur le thème de l'OACI, donc l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, et nous discutions en effet de cette obligation aujourd'hui pour des pilotes en vol, pour des incidents en vol, de déclarer pour le bénéfice de la sécurité. Et on s'aperçoit peut-être, dans notre discussion, qu'au niveau médical, c'est un petit peu difficile, parce qu'en fait, on a besoin, quand on va voir son médecin généraliste, on a besoin de se confier. Est-ce que le risque, dans ce cas-là, n'est pas de tout dire, hein ?
Vous avez tout à fait raison, et vous avez pu expérimenter la visite médicale au CMPN, et c'est peut-être de Toulouse, et c'est peut-être ce qui faisait la bonne réputation du CMPN de Toulouse, c'est que les médecins qui étaient dans cette fonction n'avaient pas pour but d'éliminer les navigants, mais d'essayer de les aider. Et je crois que les navigants ont tout à fait bien compris que nous n'étions pas là pour leur couper leur carrière, mais au contraire pour les aider, et ils nous faisaient confiance.
Tout à fait, sachant que bien évidemment, il y a un moment donné, vous êtes quand même conduit à, quand il faut, quand on ne peut pas, on ne peut pas.
Bien sûr, c'est manifestement quelque chose qui est absolument imparable, c'est la rigueur. Il faut, dans ce genre de visite, avoir une rigueur. On ne peut pas passer à côté pour faire plaisir à un pilote de quelque chose qui n'est pas réglementaire.
Alors, quelque part, vous avez ce credo de la confiance dans le cadre de l'examen médical. Et si vous me permettez, je vais parler de l'accident. Vous savez, l'accident du Germanwings, l'A320, qui était le 24 mars 2015, avec ce copilote qui a été déclaré dépressif et suicidaire. Alors, comment peut-on aujourd'hui cerner ces questions, psychologiques, qui ne sont pas purement médicales, hein.
C'est très difficile. C'est très difficile. On en a, bien entendu, à tous les niveaux, parlé, parce que c'est un problème particulièrement important. Je crois qu'il n'y a pas de solution, dans la mesure où la personne qui a un problème est tout à fait capable de dissimuler de façon tout à fait incontournable sa pathologie. Et s'il prend des médicaments et qu'il ne les déclare pas, on ne pourra pas l'inventer. S'il se présente devant vous avec l'air plus normal que normal, on ne pourra pas non plus suspecter quoi que ce soit. Alors, il n'y a qu'avec une discussion que l'on peut avoir et en établissant une relation de confiance avec ce navigant, qu'on peut suspecter un problème. Alors évidemment, on peut, s'il nous en parle, deviner une conjugopathie. On peut savoir quels sont ses soucis, s'il a des soucis financiers ou autres. Et là, à ce moment-là, on peut pousser un petit peu les investigations et éventuellement conseiller ce navigant sur une consultation spécialisée ou pas. Mais s'il veut cacher, il n'y a rien à faire, on ne peut pas le deviner.
Oui, comme vous le dites, voilà bien toute l'importance de cette relation de confiance dans l'examen Absolument. Médical. Et donc, on peut se poser des questions sur l'avenir, c'est-à-dire comment vont évoluer ces examens.
Tout à fait. Il n'y a pas, même chez les Américains qui poussent les investigations quelquefois un petit peu plus loin, de plans d'investigation qui nous permettent d'avoir un questionnaire qui nous permettrait de deviner s'il y a une pathologie psychologique ou psychiatrique même particulière. Non, malheureusement, c'est uniquement la relation entre le navigant et son médecin qui permet effectivement quelquefois de détecter un problème.
Et qui défend aujourd'hui ce credo ?
Pardon ?
Qui défend aujourd'hui ce credo de la confiance ? Parce qu'on voit que petit à petit, l'Europe va nous conduire à une organisation un peu plus reposant sur le déclaratif. Mais votre conviction, comment parvenez-vous aujourd'hui à la défendre ?
C'est très difficile. C'est très difficile parce que, manifestement, les nouvelles normes européennes ne vont pas dans le sens de ce que nous avions l'habitude de faire et qu'en définitive, on va en arriver à avoir des visites médicales relativement simplifiées qui pourront être faites en ville, comme le nouvel règlement le permet. Donc, relativement, de façon beaucoup plus simple que ça ne l'était jusqu'à présent. On laissera passer, vraisemblablement, des choses, hein, c'est sûr.
Donc on est en train de subir un peu.
Oui.
Docteur, le moment est venu de notre pause musicale. qui vous appartient, puisque vous avez accepté de nous la proposer. Alors, quel est donc votre choix pour nos auditrices et auditeurs ?
Eh bien, je pensais que Flying Home par Benny Goodman pourrait être une bonne transition. Et comme son nom l'indique, c'est tout à fait adapté à notre conversation d'aujourd'hui.
Nous écoutons. Pour ma part, il y a toujours ce parfum quand j'entends ce type de jazz, le parfum avec les dessins animés. Et ce morceau, j'ai regardé un peu, il a été composé par Benny Goodman, mais aussi Lionel Hampton. Et il est dit que ce dernier aurait commencé à le siffler, alors que très nerveux, il attendait de s'envoler pour la première fois. Alors j'ai une question, docteur. Le jazz, c'est aussi pour vous un moyen d'évacuer les soucis de la vie ?
Absolument. C'est une passion aussi, dans la mesure où, quand on est passionné, on est passionné souvent par plusieurs choses. Moi, ce qui m'a toujours plu en musique, c'est essentiellement le jazz et le blues. Donc, j'ai une collection personnelle de jazz qui date maintenant de vinyle, grande qualité et en grand nombre, et de blues aussi. Et j'ai une belle collection de musiciens et de chanteurs de blues en particulier.
Alors, je faisais le lien avec les dessins animés parce que, pour moi, toujours qui dit dessin animé, il y a les bandes dessinées. Et j'ai souvenir que dans votre salle d'attente, vous aviez toujours des dessins, des bandes dessinées. Il y a un rapport aussi avec le jazz ?
Pas directement, non, mais ces bandes dessinées font partie de ce que les navigants apprécient. C'est facile à lire, c'est facile d'avoir une bande dessinée en salle d'attente, beaucoup plus que n'importe quelle revue que l'on peut trouver chez son coiffeur. Mais le reproche qu'on nous faisait quelquefois, c'est que la visite était terminée trop tôt et que le navigant n'avait pas eu le temps de finir de lire la bande dessinée. Quelques heures restaient un petit peu plus après la signature, pour finir la lecture de la bande dessinée.
Alors, nous avons les uns et les autres, nos auditrices, nos auditeurs, nous passons souvent des moments dans les salles d'attente, et je dois vous le confier, je vais profiter de cette émission pour vous le dire, docteur, il y avait une particularité qui continue d'ailleurs, c'est que dans votre salle d'attente, toutes les revues étaient à jour. Il n'était pas question de tomber sur une revue, par exemple aujourd'hui, en avril 2018, sur une revue de 2012. Tout oui. était à jour. C'était alors, un réel plaisir d'attendre.
Alors ça, c'est Madame Mouchard qui est responsable de cette chose-là, dans la mesure où elle a toujours été ma collaboratrice depuis le temps où j'étais médecin en ville, et où elle faisait très attention à ce que la clientèle soit respectée de ce côté-là. Manifestement, quand on tombe sur une revue qui date de 4 ou 5 ans en arrière, c'est jamais très agréable. Tandis que le respect du client veut qu'on puisse lui proposer une lecture de quelque chose de récent. C'est pour ça que nous étions abonnés à des revues aéronautiques et qu'on les mettait à disposition du navigant immédiatement.
Voilà, donc en fait, c'est cette question pour donner à nos auditrices et auditeurs un peu le cadre humain de ce centre d'expertise particulier. Vous parlez de civil, beaucoup de respect pour la partie militaire, mais il est vrai que ce centre civil a ses particularités. Je le dis parce que je profite, et on a même le croissant à la fin, le café, etc. etc. Donc encore merci pour tout ce que vous avez organisé dans ce centre.
Ça, c'est Madame Mouchard et l'expérience de sa clientèle. Elle a toujours respecté sa clientèle et elle a toujours fait en sorte que le navigant se sente bien accueilli et respecté au CMPN. On disait bonjour en arrivant, ce qui surprenait quelques navigants qui n'avaient jamais entendu ça auparavant dans les centres militaires.
Voilà, donc en fait, une bouffée d'humanité dans cette question. Et je vais revenir, docteur, sur le sujet que nous avons laissé tout à l'heure, qui est la question du suivi médical, les examens psychologiques. Et j'ai toujours ce souci de l'Europe et de ce que peut nous apporter le contexte européen dans ce contexte. Là, j'ai sous les yeux une question écrite qui avait été posée au Sénat le 2 avril 2015, c'est-à-dire peu de temps après l'accident dont on parlait tout à l'heure. Et à l'époque, il était question dans cette question qui a été publiée dans le journal officiel du Sénat, donc le 2 avril, que l'Europe voulait supprimer les centres d'expertise. Alors, le secrétaire d'État au transport disait non, ce ne sera pas supprimé. Est-ce qu'il y a encore un risque aujourd'hui ?
Alors oui, le problème, c'est l'application du règlement 1178 de 2011, de l'EASA, c'est-à-dire l'European Aviation Safety Agency, qui a voulu que tous les pays européens aient les mêmes procédures pour que les certificats médicaux établis dans un pays soient valables dans les autres pays d'Europe. Or, les règlements européens ont été discutés par tous les pays signataires, mais comme je vous le disais tout à l'heure, c'est l'Angleterre qui a mis la main sur ces discussions et qui a réussi à imposer sa manière de voir. C'est-à-dire que, effectivement, maintenant, dans tous les pays, il y a un centre principal qu'on appelle le CEMA. En France, on a notre particularité d'en avoir 5, et des médecins agréés répartis sur le territoire, qui sont plusieurs dizaines en Angleterre et pareillement en Allemagne ou dans les autres pays d'Europe. En France, on n'en a que 4. Voilà. Sinon, c'est exactement l'application des règlements européens sur le plan strictement officiel qui est en France applicable. Alors, effectivement, il n'y a pas que du négatif dans cette manière de voir les choses, dans la mesure où s'il y a eu une évolution, cette évolution s'est faite en rapport avec les progrès de la médecine aéronautique. C'est-à-dire que jusqu'à présent, quand un navigant avait un problème, je prends un exemple d'un problème cardiaque tel que l'infarctus du myocarde, par exemple, eh bien, il était totalement éliminé et pouvait donc absolument choisir une autre carrière. Maintenant, avec les progrès de la médecine, on s'est rendu compte qu'il pouvait y avoir une récupération de cette pathologie, et en fonction des progrès constatés dans l'état de santé de ce navigant, il peut avoir récupération de sa licence. Alors, la différence aussi, c'est que, comme on en avait dit deux mots initialement, l'autorité qui chapeautait les décisions finales, c'était le conseil médical de l'aéronautique civile, qui était un conseil constitué par 14 membres médecins spécialistes de médecine aéronautique et qui avaient chacun une spécialité et qui, à l'étude des cas particuliers, prenaient une décision finale d'autoriser ou non le pilote à piloter. S'il avait une autorisation, c'est ce qu'on appelait une dérogation aux normes. Maintenant, ça n'existe plus. Dans la mesure où si un pilote n'est plus apte à sa visite médicale, il ne repart pas avec son certificat, mais il a à ce moment-là la possibilité de voir son dossier examiné par le pôle médical de l'aéronautique civile. Le pôle médical, c'est un peu comme autrefois le conseil médical, une association de plusieurs médecins qui prennent sous l'autorité de deux médecins examinateurs agréés par l'aviation civile la décision de donner l'aptitude ou non. Admettons que ce pilote ne soit pas satisfait de la décision qui a été prise et que cette décision soit négative, eh bien, à ce moment-là, il fait un recours vers le conseil médical de l'aéronautique civile, l'ancien CMAC, qui existe toujours en France, et c'est une particularité. Le CMAC n'existe qu'en France. Et c'est donc à ce moment-là l'autorité suprême du CMAC qui donnera une décision finale. Sinon, eh bien, c'est le Conseil d'État.
D'accord. Donc, merci pour toutes ces explications et simples remarques par rapport à la, je dirais, à quoi nous oblige aujourd'hui le Royaume-Uni. Peut-être qu'on peut espérer, comme ils vont sortir de l'Europe, qu'on aura d'autres influences. C'est un espoir.
Pourquoi pas ?
Alors, docteur, on va revenir vers un contexte peut-être un peu plus simple, parce que ceux qui nous écoutent, certains, il y a des jeunes, on recevait dans l'Oiseau Blanc récemment Dominique Allais, instructeur pilote, et nous parlions de l'aptitude médicale. Donc concrètement aujourd'hui, supposons, l'exemple du pilote, mais l'exemple de quelqu'un qui veut passer un concours, concours de pilote, qui veut rentrer dans la profession. Est-ce qu'en fait, il est conseillé de passer sa visite avant de passer le concours ? Ou est-ce qu'on attend d'avoir le concours, de passer la visite, et on n'est pas apte, et auquel cas la déception est encore plus forte ? Que nous conseillez-vous ?
Le conseil que je donnerais, c'est évidemment, avant de commencer toute carrière, de passer la visite médicale d'aptitude. Alors, il est certain que si on découvre une inaptitude et que cette inaptitude est confirmée par le pôle médical et peut-être même encore par le conseil médical, il faut changer son fusil d'épaule et faire autre chose. Il se trouve que c'est peut-être pas toujours le cas, et c'est pas ce que je conseille non plus. Il y a des candidats élèves pilotes de ligne, en particulier ceux de l'ENAC, qui réussissent à l'examen de l'ENAC, au concours de l'ENAC, et qui ensuite attendent la visite médicale pour poursuivre leurs études, pour la bonne et simple raison que c'est l'État qui paye la visite. Je ne crois pas que ce soit une bonne formule, dans la mesure où avoir fait tous ces efforts pour passer ce concours et se voir ensuite éliminé, c'est vraiment dommage. Alors que, en définitive, il faut commencer par là, hein, passer sa visite médicale.
Et le prix de la visite à quelques euros près, on arrive à combien ?
Il a beaucoup évolué. Je n'ai pas idée à l'heure actuelle de ce que représente la visite médicale d'aptitude au CEMA, mais c'était certainement beaucoup plus cher qu'une visite révisionnelle. Hein. La visite révisionnelle est peut-être la moitié de la visite médicale d'aptitude, ne serait-ce que parce que le nombre d'examens est beaucoup plus important au certificat initial, à la visite initiale, que pour les visites révisionnelles.
Alors, je vais profiter de votre expertise en tant que médecin. Bon, dans la jeunesse, on sait que, par exemple, le cannabis, bon, certains jeunes fument le cannabis, l'alcool, la cigarette. Sur l'exemple du cannabis, les traces, ça reste comme ça.
Alors, voilà encore un progrès de l'Europe. C'est-à-dire que quand nous faisions, nous, les visites d'admission, il y avait une recherche excessivement sévère des toxiques dans les urines, au point où le candidat navigant était amené à émettre ses urines devant un témoin avec, dans la salle, un liquide coloré pour lui éviter de diluer ses urines avec de l'eau, et tous les candidats qui étaient positifs au premier test voyaient leur test confirmé à Paris dans un laboratoire spécialisé. Et si la positivité était confirmée, c'était une élimination totale. À l'heure actuelle, il n'y a plus d'examen des urines pour recherche de toxiques chez les futurs navigants.
Ce qui est assez étonnant, en n'étant pas médecin, quand on parle qu'on parlait tout à l'heure des questions psychologiques et autres, on peut parfois supposer que le cannabis est un complément à un certain malaise, un mal-être.
Absolument. Mais voilà encore, à mon avis, un effet négatif hein, de l'élargissement des normes européennes, dans la mesure où, effectivement, il y a probablement beaucoup de jeunes candidats qui sont des habitués de la petite fumette du week-end et qui passent au travers de cette sélection parce qu'on ne demande plus de dépistage.
Alors vous m'apprenez quelque chose aujourd'hui, docteur. Revenons à ces jeunes, ou jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, qui sont pilotes maintenant. Alors pilote, on va rester pour l'instant dans le contexte du pilote privé d'aéroclub. On a parlé, donc il y a la visite d'admission, la visite de renouvellement. Et on parlait tout à l'heure de médecin agréé classe 1, docteur Lafaille, dont vous parliez tout à l'heure. Mais sans parler de cette habilitation, je crois qu'aujourd'hui, si je ne me trompe pas encore sous votre contrôle, il y a 12 médecins en Haute-Garonne qui ont une habilitation. Alors, quel est ce type d'habilitation ? Je crois que vous en faites partie, docteur.
Alors, c'est l'habilitation classe 2.
Classe 2.
Alors, donc, ils ont un niveau de formation qui est inférieur à celui de la classe 1, bien entendu. Ils ont passé un examen après une formation à la faculté. Et en définitive, ils ont, une fois que cet examen est passé, l'agrément de la Direction générale de l'aviation civile pour faire passer les visites d'admission et de renouvellement des pilotes non professionnels et maintenant, depuis l'Europe, des hôtesses de l'air. Classe 2, c'est non professionnel, sauf hôtesses de l'air qui sont des professionnels. Voilà.
Et sur le site de la Fédération française de l'aéronautique, donc dont on a d'ailleurs parlé dans une précédente émission avec Dominique Allais, il faut savoir que pour ceux qui, nos auditeurs et auditrices qui le souhaitent, on a la liste des médecins. Et donc vous êtes aujourd'hui dans cette liste,
je ne me trompe pas. Parce que qui peut le plus peut le moins. Et qui est agréé classe 1 a automatiquement l'agrément classe 2.
D'accord. Ce qui n'empêche pas, néanmoins, d'aller au CEMA de Toulouse pour passer sa visite.
Absolument. Absolument. Voilà. Le CEMA fait autorité pour les visites d'admission et de renouvellement de toutes les classes, c'est-à-dire professionnels, non professionnels, et donc pour les classes 1, pour les classes 2 et pour les LAPL. Donc le CEMA peut faire tout ça, tandis que les médecins classe 2 ne peuvent pas faire d'admission de classe 1.
Voilà, donc en fait, bon, c'est très difficile, hein, cette question est assez complexe.
Moi, je pense
technique, il faut que nos auditeurs et auditrices comprennent que, bon, il faut creuser l'information et il y a moyen de l'avoir, ne serait-ce qu'en contactant le CEMA, en allant voir un médecin agréé en ville à Toulouse ou ailleurs, hein, puisque la Haute-Garonne, il n'y a pas que Toulouse. Me vient une question concernant la partie militaire, les pilotes militaires, parce que j'ai souvenir. Dans la salle d'attente, d'avoir vu aussi des pilotes militaires. Et quel était ce type de visite, sans rentrer bien évidemment dans la confidentialité, dans le détail, mais est-ce que vous pouvez avoir des pilotes militaires dans un centre civil? Comment ça se passe?
Non. Autant les militaires peuvent voir des civils, autant le centre civil ne pouvait pas voir de militaires. C'est-à-dire que nous n'avions pas de militaires en fonction chez nous, nous n'avions pas de gendarmes. Par contre, nous avions d'anciens militaires ou des pilotes de la sécurité civile, par exemple, qui étaient aussi des anciens en général de la marine, mais qui, à titre civil, venaient passer leur visite chez nous. Non, mais de militaires, non, nous n'avons jamais eu de possibilité, parce que les militaires ont leur spécificité, hein, et donc ils ont gardé leur spécificité et continuent à avoir leurs navigants suivant leurs normes à eux, qui sont des normes un petit peu particulières.
Donc pour revenir à la question des jeunes qui veulent embrasser une certaine carrière, aujourd'hui, quelqu'un qui veut devenir pilote militaire, est-ce qu'il peut néanmoins venir passer cette visite d'admission? Enfin, l'équivalent, vous avez le centre a toutes les données.
Puisque nous avons des normes qui sont aussi sévères à l'admission que les normes militaires, donc si le futur pilote qui veut embrasser une carrière militaire veut se rassurer et savoir s'il sera admis chez les militaires ou pas, il peut très bien faire comme beaucoup ont fait, passer la visite d'admission, et c'est une garantie pour eux de pouvoir passer plus facilement le filtre militaire quand ils se présenteront chez eux.
Et vous disposez, me vient aussi une autre question, on va recevoir le directeur de l'École nationale de l'aviation civile d'ici peu dans l'Oiseau Blanc. Vous disposez par exemple des normes pour devenir ingénieur du contrôle de la navigation aérienne?
Bien sûr, oui, absolument. Nous avons eu des relations assez étroites avec les médecins contrôleurs de l'ENAC, effectivement. Et nous avons pu avoir, ne serait-ce que par des échanges sur certaines spécificités matérielles entre les uns et les autres. Oui, tout à fait.
Donc on ne peut que conseiller à venir dans un centre lorsqu'on veut aller vers une certaine carrière. Et vous parliez tout à l'heure, et nous avons longuement parlé de cette question de confiance. Il me semble que ce besoin de confiance est aussi nécessaire, surtout à la visite d'admission.
Absolument. Absolument. Je crois que c'est essentiel pour un jeune qui veut embrasser sa carrière et qui veut être sûr de pouvoir la terminer, de jouer carte sur table et de donner tous les éléments d'anamnèse qui permettront de juger qu'effectivement c'est de son intérêt, s'il pourra continuer sa carrière ou pas.
Oui, enfin, cela dit, on voit également dans les centres militaires, et encore une fois, je respecte parfaitement les centres militaires, mais je me souviens de Ballard, de la belle époque du centre qui était à Ballard. Bon, c'est vrai qu'il était quand même difficile de livrer certaines informations.
Oui, mais manifestement, c'est ce que je disais initialement. Ils ne se livraient pas dans la mesure où ils avaient l'impression que le médecin militaire qu'ils avaient en face d'eux cherchait la petite bête pour essayer de trouver la pathologie particulière qui permettrait à la fois de découvrir quelque chose pour éventuellement publier, et à ce moment-là, c'est mon avis, hein, publier pour une promotion.
Oui. Autre question, l'activité que je qualifierais de sportive, par exemple pour faire de la voltige, être pilote voltige, est-ce qu'on a besoin de normes supérieures ou pas?
Pas du tout. Pas du tout. C'est une norme d'aptitude normale, mais bien entendu, quand on connaît les conditions médicales qui sont susceptibles d'intervenir quand on pratique la voltige, il vaut mieux s'assurer que tout est en bon état avant de se lancer dans ce genre d'activité.
Je vais continuer un peu sur votre carrière personnelle. Compte tenu de tout ce que vous nous avez dit jusqu'à présent, est-ce qu'il n'a pas été difficile pour vous de quitter vos fonctions au CEMA, l'ex-CEMPN, compte tenu de cette passion dont vous nous avez fait part?
Pour être tout à fait clair, j'aurais continué encore longtemps si j'avais eu la possibilité. Malheureusement, comme vous le savez, des questions de santé ont fait que j'ai été obligé de lâcher pied et de laisser à mes successeurs le soin de conduire la boutique. Maintenant que j'ai la chance d'aller beaucoup mieux, je continue à être passionné par mon métier et je continue à une activité médico-aéronautique dans d'autres secteurs, bien entendu, mais je n'ai pas lâché pied de ce côté-là.
Alors, dans l'autre secteur, vous pourriez nous en dire un petit peu plus?
Oui, tout simplement, je continue à être, par le biais de Aero Consulting, un expert agréé par les assurances, et je suis donc conseil pour les navigants qui auraient des problèmes médicaux particuliers pour les aider dans leur démarche vis-à-vis des assureurs.
D'accord. Donc, très intéressant. Donc, Aero Consulting, c'est votre société, si je comprends bien.
Voilà, exactement.
Voilà. Et le lien, j'ai une question sur le centre, puisqu'on parlait tout à l'heure, vous parliez tout à l'heure des liens avec les États-Unis, avec la Federal Aviation Authority, si je ne me trompe pas, au début, enfin, dans votre carrière. Et le Canada, qu'est-ce qu'il y avait comme lien particulier?
Eh bien, écoutez, c'est toujours dans la même veine. À partir du moment où j'ai été agréé par les Américains, j'ai pensé qu'il serait intéressant d'être agréé par le Canada aussi, et donc j'ai fait la demande et j'ai été un des 4 médecins agréés par Transport Canada en France. Il y en avait plusieurs à Paris, et il y en avait 2 dans le sud de la France, moi à Toulouse et Mouledouce à Tarbes, qui continue d'ailleurs, si j'ai bien compris, à faire des visites pour les pilotes canadiens. Alors, c'est peut-être pas des visites pour des pilotes canadiens qui pratiquent en France, mais il y a beaucoup de Français qui veulent aller faire des études au Canada parce que c'est beaucoup moins cher, et donc ils partent faire leur visite avec la garantie d'un certificat d'aptitude valable au Canada.
Docteur, nous arrivons à la fin de notre entretien. Alors, je vais vous confier que je retrouve à ce moment le plaisir que j'avais à vous retrouver lorsque vous signiez à l'époque ce carton. Toujours la même amabilité, la même cordialité, la même passion. Je suis convaincu que vous avez réussi à faire passer cela au niveau de nos auditeurs. Alors moi, je n'ai aucun carton à vous signer pour témoigner de votre aptitude à nous faire passer vos connaissances, à vouloir nous inclure dans les battements de vos passions, si proches de l'aéronautique. Nous ne pouvons que vous remercier de nous avoir permis de découvrir ce monde de l'aptitude médicale du personnel navigant. Permettez-moi, comme vous le faisiez sous une autre forme à l'issue des examens de l'ex-CEMPN, de vous souhaiter le meilleur dans vos activités et dans votre vie. Mais avant de terminer cet entretien, un dernier mot, docteur Mouchard?
Écoutez, je suis très touché et je vous remercie infiniment. Ça a été un moment très agréable pour moi, et les souvenirs que vous avez permis d'évoquer, c'est pour moi quelque chose qui est vraiment très enthousiasmant. Merci encore de votre gentillesse, en tout cas.
C'est réciproque, merci. C'était L'Oiseau Blanc, une émission de Philippe Trousselard, avec à notre veille technique Jean-Loup Arzac. Vous Vous pourrez retrouver cette émission ainsi que les précédentes déjà diffusées sur le site de la station ou la page Facebook d'Esprit Occitanie, la radio à la carte. Bonne soirée à toutes et à tous et à bientôt dans un nouveau vol avec l'Oiseau Blanc.